RMC, les grandes gueules.
Je ne veux pas.
Vous l'avez
pas
vu, le jeune philosophe insoumis là.
Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis, je fuis.
C'est qui? Comment il s'appelait? Pink Martini, c'est ça? C'est gros?
Oui.
Excellent. Voilà, la valeur travail avec une étude, un sondage IFOP qui montre le rapport des Français au travail aujourd'hui.
Oui, c'est une tendance de fond en fait. On avait déjà parlé ici même, juste après la sortie du confinement, cette période de 2 ans de coronavirus, il y avait effectivement un changement qui s'opérait avec le travail. Et là, c'est confirmé par cette étude qui a été réalisée par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Et le retour à la normale, en fait, ça se passe pas bien. C'est-à-dire que les Français, le rapport au travail des Français a changé. C'est un peu « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire qu'on travaille parce qu'on n'a pas le choix, mais si on pouvait faire autre chose, on le ferait. En tout cas, le travail n'est plus aussi important que ça dans notre vie. C'est ce que disent les Français interrogés. Seulement un salarié sur 5 estime aujourd'hui que le travail est très important. Ils étaient 60% en 1990. Alors, en fait, les responsables de cette étude disent on ne dit pas que les gens sont paresseux, sont des feignasses.
C'est ça qui est intéressant.
Mais en fait, ils disent maintenant, les Français veulent que le travail s'adapte à eux et non le contraire. Alors c'est vrai qu'on est aussi dans des sociétés très individualistes où voilà, et donc on est moins attaché à la structure du travail, à l'entreprise comme avant. Tu rentrais à 20 ans, tu finissais à 60, tu as passé toute ta vie dans l'entreprise, ça s'est terminé. C'est l'heure du zapping, les gens quittent leur boulot, il n'y a pas d'attachement, pas de loyauté. Et les Français préfèrent avoir davantage de temps libre, même si cela implique de gagner moins d'argent. Ils sont prêts à faire ce sacrifice. Vous le comprenez ça?
Moi,
Bertois Zorac est plutôt quand même d'une génération où le travail est au cœur de toute.
Moi, je comprends, mais parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur souffrance au travail. En France, la souffrance au travail, le management, le management de terroriser les gens, c'est quand même quelque chose qui n'est pas pris en compte. Le harcèlement et la souffrance au travail, ça, c'est la première chose. Le Covid est passé par là, évidemment, à obliger les gens à se questionner sur le sens de leur vie, sur le temps qu'ils consacrent pour leur vie, pour leur famille, etc. Ça a modifié les choses. Et du coup, moi, je trouve intéressant qu'on décide de travailler pour travailler dans de bonnes conditions et de travailler avec des gens bienveillants dans des univers. C'est pas le travail qui pose problème. Il y a plein de gens autour de nous qui nous disent c'est pas le travail qui me pose problème. C'est tout ce qu'implique le travail, c'est-à-dire des ordres avec des gens pas sympas, avec des salaires qui nous permettent pas de vivre décemment, avec une liberté qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on pourrait dire en France on ne manage pas au projet. On manage souvent à la présence, alors qu'aux États-Unis, ils ont super évolué. Le télétravail est venu comme si c'était un ovni, alors qu'il y a plein de pays qui... On n'a pas évolué dans notre façon de vivre le travail. Moi, personnellement, j'aime travailler. Je pense que le travail, c'est la santé. Le travail, ça permet d'être content de soi, de faire des choses intéressantes, passionnantes. Moi, je suis quelqu'un qui travaille toujours. Alors, à la maison, n'importe où, mais en tout cas, je suis toujours en action. Maintenant, j'ai pas envie de travailler dans des univers avec des gens pas sympas, avec des gens malveillants, avec des gens méchants, avec des gens pour qui la productivité va au-delà de l'humanité, etc. Et je pense que c'est ça que les gens rejettent. C'est pas le travail. Et d'ailleurs, l'étude le dit bien. Les gens sont pas paresseux. Ils sont capables de travailler 10 heures dans un jardin. Ils sont capables d'aller donner un coup de main à leurs voisins pour refaire des travaux. Le travail en lui-même ne pose pas de problème aux gens. Ce qui pose un problème aux gens, c'est la façon dont on travaille et la façon dont on a hiérarchisé le travail et la façon dont on n'a pas impliqué les gens dans le collectif du travail. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on produit ensemble, on partage ensemble, on vit bien ensemble. Les gens disent quand ils souffrent au travail, mais de toute façon je m'en fous, le travail c'est pas ma vie. Si, c'est une partie de ta vie. Donc ils essayent de se débarrasser d'une souffrance au travail en considérant qu'elle n'est pas leur vie. Or elle est le prolongement de leur vie, elle fait partie de leur vie. Donc
ouais, on voit bien qu'en fait tout ce qui était les années 80, on disait moins de boulot, enfin moins de temps libre, mais vas-y, bosse, gagne, réussis, etc.
Sûr, parce qu'on était sur
tout
le...
ça a complètement changé.
On était sur la grande consommation.
Même si je gagne moins, je veux un petit peu plus de temps libre.
On veut pas posséder, on veut être aujourd'hui, on veut une qualité de vie.
Jérôme, t'es d'accord avec toi? Avec ça? Parce que toi, tu travailles beaucoup.
Oui, il est d'accord avec lui-même.
Je suis dans un milieu surtout où tu peux pas te permettre d'avoir ce genre de mentalité, quoi. Parce que sinon, alors là, tout tombe, quoi. Et moi, je salue l'engagement que peuvent avoir les aides-soignantes, les infirmières, les soignants dans les établissements comme en ville, parce que c'est des professions qui comptent pas leur temps et qui sont tournées vers l'autre.
Enfin, c'est dans ces secteurs-là qu'on voit aussi les
démissions. Pour autant, dans nos cabinets, on n'a jamais vu autant de personnes fatiguées, inquiètes, qui subissent mal la violence du quotidien et qui, de par l'incertitude qu'ils ont par rapport à leur avenir, ne misent pas sur la valeur travail.
Voilà.
À une époque, tu misais sur la valeur travail parce que tu avais une envie de développement, tu avais une envie de meilleur. Mmh. Et aujourd'hui, l'inquiétude fait que tu mises plus là-dessus. Et puis à côté de ça, tu as une fatigue générale, probablement en lien avec la Covid, qui fait que les gens sont presque passés à autre chose, quoi. Ils s'engagent plus, ils profitent de la vie, ils cherchent à s'occuper d'eux-mêmes avant de s'occuper des autres. Or, quand tu travailles, tu t'occupes aussi des autres, quoi. Et tu as cette problématique-là, quoi. Je ne cesse de rencontrer des jeunes, et je ne le voyais pas auparavant, entre 20 et 30 ans, qui vont venir pour un arrêt de travail d'un jour, deux jours. On ne le voyait pas auparavant. À la moindre fatigue, on vient te demander un arrêt de travail. Et ça, ça te montre bien que, je ne dis pas que c'est des feignants, attention, loin de moi cette idée-là, mais je vois que, si tu veux,
Il y a une souffrance quelque part.
Non, mais il y a une fatigue générale, vraiment. Et les seniors, et je te rejoins sur cette espèce de volonté de changer de boulot tout au cours de la vie, d'être plus attaché comme ça, à rentrer dans une voie et à la garder. Mais les seniors qui, eux, ont construit leur vie, mais eux te disent, moi, j'en peux plus, quoi. Je suis crevé, j'en peux plus. J'ai envie de m'arrêter. Il y a vraiment une baisse de morale qui est patente, quoi.
Jean-Baptiste, tu le comprends, ça?
Non, je suis assez en désaccord avec ce que vous avez dit. D'abord, je pense qu'il n'y a plus un entrepreneur aujourd'hui, un dirigeant de boîte, qui s'occupe pas de concilier la vie pro, la vie perso de ses employés. Je pense que toutes les méthodes de management un peu autoritaire aujourd'hui, ça devient, il y en a, ça existe encore, mais ça devient de plus en plus marginal et de plus en plus marginalisé.
On a les prémices.
Et les jeunes, quand tu...
On a seulement les prémices, on est au début.
Les jeunes, maintenant, quand tu les embauches, le premier truc qu'ils te demandent, c'est combien de jours de télétravail, comment je concilie. Enfin, je vois, c'est devenu obligatoire aujourd'hui de prendre
en compte que le jeune
salarié, il a envie d'autre chose.
Sauf que tous les boulots peuvent se télétravailler.
Hein. Exactement.
Et dans la restauration de bâtiment, tu télétravailles pas.
Moi, je suis en désaccord. Donc, sur ce point, et je pense que, effectivement, les Français ne sont pas des feignants, ils font des efforts pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font des arbitrages justement pour eux-mêmes. Mais on a probablement un peu collectivement perdu l'engagement pour les autres, pour la collectivité, pour l'esprit, par exemple, corporate, l'esprit d'entreprise. Et le sondage, je le dis bien, il a drastiquement chuté.
Pourquoi?
Et en fait, la vie, bon, évidemment, c'est un effort pour soi-même, et ça, les Français le font, mais c'est aussi un effort pour les autres. C'est un effort, par exemple, la démocratie est un effort.
Un million de bénévoles. Voter, un million de bénévoles.
Et l'entreprise, ça fait partie de la vie en société, et donc faire un effort pour son entreprise, voir que son entreprise prospère, ça devrait être un réflexe assez naturel. Alors évidemment, on était en France dans un monde de grosses boîtes où on restait longtemps, et en fait, on arrivait à acquérir des droits grâce à ces grosses boîtes. Et les régimes spéciaux, c'est ça en fait initialement aussi.
Oui, mais regarde, ça, on est en train de bénévoles. Les gens sont pas feignants. Les gens sont engagés collectivement.
Mais les gens sont engagés pour eux-mêmes.
Oui, mais collectivement, regarde dans les restos du cœur partout. Il y a plus du monde.
Pas chez vous, sur les artisans, les petits commerçants, etc. Mais... La réflexion que tous vous font, c'est on arrive à trouver personne, quoi. Ils ont ce problème-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté d'aller vers.
Oui, mais regarde, ils les perdent et ils les retrouvent.
Ce qui a radicalement changé aussi, c'est l'envie de réussir et de super bien gagner sa vie. C'est fini, ça. Aujourd'hui, le chiffre
en France,
le dit.
Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui pense comme ça.
Peut-être, mais en France.
Nous, on a Marine Tondelier, il faudrait l'exporter parce que je pense que.
Deux Français sur trois avant disaient, OK, j'ai moins de temps libre, mais je gagne mieux ma vie. Et aujourd'hui, ça s'est complètement inversé.
Ouais, mais sûr que.
Tu veux plus de temps libre, même si tu gagnes moins bien ta vie. C'est tout ce paradigme.
C'est un discours d'opinion publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Français qui arbitre. Il y a très peu de Français qui arbitre contre de l'argent supplémentaire. Et d'ailleurs, bien souvent, les revendications, c'est essentiellement pour travailler moins, mais surtout gagner plus, en général.
Surtout un discours de pays protégé, ça.
Et c'est un débat. Effectivement, politiquement, on est un des seuls pays au monde qui revendique vouloir se débarrasser des milliardaires, ne pas aimer la richesse, etc., etc.
Oui, mais en même temps, on veut de l'argent pour financer les hôpitaux, etc.
On veut continuer à financer.
C'est compliqué.
On veut financer.
C'est pas les pauvres qui financent les hôpitaux. C'est vraiment. Pardon, ce débat est débile. Mais pardon, mais il faut le dire.
Je pense que
ce sont des responsables politiques. À la limite que un citoyen lambda le pense en disant on va prendre aux riches comme ça sera. On va détruire les milliardaires. Mais que ça soit des responsables politiques et notamment la nouvelle chef des écolos, ça dit le niveau quand même. Oui. Parce que, pardon, on est dans un système de redistribution. Le système français, ça, c'est justement la solidarité entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas. Tous les gens qui ont de l'argent se barrent ou sont détruits, parce que c'est ce qu'ils disent, il faut détruire les milliardaires. Ah ben, c'est sûr, on restera entre pauvres, mais je ne sais pas bien comment on va financer les trains pour aller en vacances, financer l'hôpital pour se soigner. Enfin, c'est
complètement débile.
À un moment donné, personne ne le dit. Parce qu'il y a une espèce de complaisance dans les médias en disant ah,
on écoute. Ah bon, alors il faut taxer les milliardaires, c'est génial votre
idée. Et ça se diffuse dans l'opinion publique et c'est des caricatures.
Pas payer d'impôts. Ils payent déjà, on peut peut-être même leur faire payer plus d'impôts.
Non, mais c'est ça, donc voilà, la différence est là, c'est qu'on va regarder exactement s'ils n'ont pas. Voilà, s'ils sortent déjà de la fiscalité,
Bernard Arnault, s'il veut, il peut quitter la France, il payera pas d'impôts et on sera là à dire ah ben c'est dommage, on l'a quand même perdu.
Mais ce qui est intéressant dans l'étude, c'est de dire que c'est pas la paresse qui est mise en avant, c'est la façon dont les gens veulent travailler dans le collectif. Alors, et t'as raison, c'est comment ils vivent.
Non, mais
le
là
travail.
Où Olivier a raison, enfin, le point fondamental, c'est qu'évidemment, enfin, les Français, ils vivent comme ils vivent. Mais il y a quand même beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui qui ont fait de cette rhétorique-là
une idéologie.
Le droit à la paresse, Enfin, je veux dire, dans l'écologie
populiste,
politique,
d'ailleurs.
Entre Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, on a quand même des stars de la démagogie. Enfin, ce truc est quand même absolument hallucinant. Et effectivement, il y a une complaisance vis-à-vis de ces prises de position qui sont.
C'est travailler mieux,
à minima naïve. Et à Maxima.
Mais pardon, Sandrine Rousseau, son salaire, c'est de l'argent public. S'il n'y a plus personne pour lui payer, comment on fait?
Bien sûr.
Nous sommes avec Lionel qui nous appelle du Vaucluse. Il est chauffeur VTC. Bonjour Lionel.
Bonjour
Lionel. Alors, est-ce que le travail est encore essentiel dans la vie ou pas?
Ah, mais il est tout le temps essentiel. Moi, pour ma part, j'ai été en retraite pendant 3 ans, puisque j'ai eu la chance de bénéficier des carrières longues. Donc, je suis parti à 60 ans. J'étais cadre supérieur, directeur commercial. J'ai arrêté à 60 ans. Je puis vous dire une chose, c'est que je m'ennuyais au bout de 3 ans, mais d'une façon incroyable. Et donc, j'ai cherché une activité souple qui me permettrait d'avoir des contacts humains, d'avoir... L'argent n'était pas le problème, puisque j'avais une retraite plutôt confortable d'ancien cadre. Mais c'est simplement que le milieu social change complètement quand on est retraité. On n'a plus les mêmes contacts, on n'a plus la même façon de vivre. Et il m'a fallu me resocialiser en faisant cette activité de VTC.
Donc comme c'est pas le travail qui est le problème, c'est la façon dont on travaille.
Ah, absolument, c'est la façon dont on travaille. Mais c'est surtout que quand vous devenez retraité, vous rentrez dans un monde auquel vous n'êtes absolument pas préparé.
Ce que dit Lionel, c'est super important, c'est que le travail, c'est aussi c'est l'émancipation, parce qu'on gagne un peu d'argent et parce qu'on peut se réaliser, mais c'est aussi la socialisation. Et alors singulièrement en France. Les Américains, ils s'en foutent un peu de socialiser au travail. Pour eux, c'est pas super important. C'est le business d'abord et ils socialisent à côté. Mais nous, on socialise essentiellement au travail.
Oui, mais
on
d'accord,
se marie
Jean
au travail,
Baptiste,
on se rencontre.
Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts d'adaptation, des compromis? Parce que le travail avec les autres, forcément, faut faire des compromis. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est une société très individualiste. On regarde un peu quand même son bonheur, etc. Et on a du mal à avoir des œuvres collectives dans le boulot. Parce que quand tu bosses avec des gens, tes collègues, tu les as pas forcément choisis. Faut accepter aussi. Est-ce qu'on a encore, et le télétravail où on bosse chacun chez soi et on voit plus personne, je suis pas convaincu que ça va dans le bon sens.
Il y a des boîtes dans lesquelles c'est sympa de travailler, d'autres moins, tu vois, c'est pour ça aussi que la société
de bureau, c'est du bureau partagé, ce problème c'est qu'on entraîne un peu ce côté très individualiste du travail.
Lionel, post-retraite, vous avez quel âge aujourd'hui?
64.
À 64 ans, vous avez repris le travail simplement pour être au contact des gens, c'est ça? Il n'y a pas de motivation financière du tout?
Je dirais que c'est jamais, ça fait, entre guillemets, les voyages se font un peu plus loin maintenant parce que c'est un peu plus de confort. Mais ce n'était pas la motivation de base.
Et vous faites vous allez faire ça jusqu'à quel âge?
Tant que je pourrais le faire, je dirais qu'aujourd'hui...
Donc l'âge de la retraite...
Comme quoi j'ai la chance d'habiter dans une région touristique où il y a beaucoup d'hôtels de luxe, beaucoup de choses comme ça, et je puis vous dire que ça leur fait très plaisir de voir des chauffeurs qui aujourd'hui sont des gens respectueux, bien habillés, qui viennent et qui respectent leur clientèle. Donc c'est un marché aussi dans lequel je dirais il y a énormément à faire. Je vous cache pas que les taxis du coin m'ont envoyé des messages incendiaires.
Pourquoi? Alors, en vous disant quoi?
On en manque. On manque de solutions de transport.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, vous savez, la France est un pays de privilèges et de castes et tout le monde veut s'asseoir sur son petit privilège. Moi, j'ai vécu le taxi de mon village qui m'a appelé en incendiant, comme quoi c'était un scandale et ainsi de suite. On est vraiment un pays archaïque là-dessus. Alors que si on permettait justement aux retraités d'avoir justement une transition qui leur permette d'avoir une activité, pour ceux qui veulent rien faire, ils font rien, c'est pas un problème. Mais à partir de 60 ans, si on vous dit, eh bien, écoutez, ben, choisissez votre activité, et l'entreprise est là pour vous assurer un certain...
Vous avez eu la... Je vous interromps parce que c'est important. Vous avez vu dans la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle réforme, si elle passait, lorsque l'on prend sa retraite et qu'on reprend un travail, on recapitalise et on a une seconde pension.
Mais ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Ce qui n'était pas le cas et c'est plutôt ça, par contre...
Bah Lionel, merci d'avoir été avec nous. Cet exemple, mon cher Lionel. Bonne route, soyez prudent, profitez bien de la vie. Alors, à bientôt, Lionel.
Merci, et puis continuez, vous faites un travail super.
Merci. Lionel. Dans un instant, du Vaucluse, on va aller dans le Calvados. Vous voyez tout ce que c'est le Calvados.
Enfin, oui, Normandie. Dans le Nord.
Pas
Normandie.
Terrible en géographie.
Quand oui, tu le savais pas.
Je suis 14, le Calvados.
Et on a dit une bêtise la dernière fois. Bayeux, c'est bien dans le Calvados.
Ouais. Ah, bah non, c'est moi qui avais raison.
Pirico Légas m'a engueulé.
Dans un instant, Chris, à Caen, dans le Calvados, banquier, est-ce que le travail est encore essentiel dans sa vie? Bah, il va nous dire ça au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avant de continuer notre discussion sur le travail et de donner la parole à Chris qui nous appelle du Calvados, je vous rappelle qu'RMC vous paye votre facture d'énergie pour l'hiver. Vous m'envoyez facture par SMS au 732-16, facture par SMS au 732-16, bois, gaz, fuel, électricité, quel que soit votre moyen de chauffage. Envoyez facture par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort, ce sera pris en charge. C'est Chris qui nous appelle du Calvados. Bonjour Chris.
Bonjour.
Alors, dans quel camp êtes-vous? Est-ce que le travail est encore essentiel, oui ou non?
Alors, moi, je dirais que c'est une question de remettre le travail à sa juste place. C'est pas qu'on n'aime plus le travail. On aime le travail nous apporte quelque chose, mais on n'a plus la même ambition. Alors, pourquoi? Moi, en fait, quand j'avais 20-30 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'étais une pâte à modeler, j'avais de l'ambition, je voulais gravir les échelons, parce que je suis dans une banque, hein, je travaille dans les bureaux administratifs d'une banque. Mon projet c'était devenir chef adjoint et devenir chef. Aujourd'hui, je ne veux surtout plus ça. C'est terminé. Quand vous vous rendez compte avec l'expérience, hein, aujourd'hui j'ai 43 ans, ben, je deviens presque un senior, je deviens donc une pâte à modeler qui devient dure, hein, je deviens plus rigide, on va dire.
Comme Alain, ça.
Voilà. Et vous vous rendez compte que le management, il a vachement évolué, il est devenu harcelant. Tout est piloté. On pilote tout dans la performance. On en oublie les clients. On veut tout piloter, les moindres indicateurs de ceci, de cela. Quand vous êtes manager, vous avez la pression du N, ce qu'on appelle le N+2, le manager de manager. Vous avez la pression des salariés. Donc moi,
ça existe encore.
Ah oui, non, mais moi, quand je vois ma chef, elle est derrière ses trois écrans, elle a tous ses tableaux Excel, elle nous flique, elle regarde tous les indicateurs. Franchement, ça fait pas rêver. C'est ça, être manager.
Et parce qu'elle-même, elle a la pression du dessus aussi, c'est pareil.
Ah oui, elle a la pression du dessus. Mais du coup, elle nous la refourgue.
Voilà.
Ouais,
voilà.
Comment on hiérarchise, comment le travail est hiérarchisé, il est plus collectif. Plus du management par projet. La souffrance au travail, c'est un sujet tabou. Le harcèlement, pareil, personne n'en parle. Mais... Et du coup, c'est ça qui fait revoir aux salariés, la plupart.
Mais c'est l'organisation au travail. T'es obligé de rien. Le patron qui a envie d'organiser un monde de process, il organise un monde de process.
Oui, mais regarde.
N+1, N+7, tu passes ton temps dans les tableaux Excel et les process. Oui. Mais personne, d'abord, je pense que c'est assez inefficace. Et personne n'oblige personne à faire ça.
Non, mais il y a des gens qui restent dans leur travail.
Dans la banque,
économiquement, ils peuvent pas quitter leur travail.
Dans la banque, c'est comme ça, dans la banque?
Ah, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire dans les banques.
Il y a des actionnaires, faut des dividendes. Vous me mettez, il faut des dividendes, quels que soient les moyens, il faut des dividendes.
Ah oui, c'est et tout. Puis même les banques mutualistes.
Tu peux faire des résultats sur.
Oui, mais bien sûr.
Mais pardon,
mais ça veut dire Chris, que vous venez au boulot à reculons?
Oui, personnellement.
Ah oui, moi si je viens, c'est que pour mes collègues, hein. C'est tout. Hein. En plus, quand vous avez le malheur, quand vous avez des entretiens d'évaluation, alors maintenant, c'est la nouvelle mode, hein. Maintenant, on vous marque à la culotte, c'est des entretiens d'évaluation tous les mois. C'est plus tous les.
Ah bon?
C'est plus tous les ans. Ah ben oui, c'est plus tous les ans, parce que maintenant, les personnels administratifs, on les traite comme des commerciaux. Vous avez maintenant des suivis. Donc en fait, si vous avez le malheur d'être pas dans les bons indicateurs pour un point de détail, on va foutre en l'air tout le reste. Et quand vous demanderez une augmentation, ah mais non, l'augmentation chez nous, c'est que tous les 8 ans ou tous les 10 ans. Et puis vous aurez que 50 euros net par mois. Hein.
Mais Chris, pardon, mais vous avez 43 ans, vous arrivez donc à un âge où vous devez manager, ouais. Vous refusez de le faire. Comment vous envisagez votre évolution de carrière, en fait? Et 43 ans, il vous reste quand même quelques années.
Gagner moins, mais travailler dans de meilleures conditions et peut-être de manière plus apaisée.
Oui, mais
et...
ça, c'est une fois que tu as dit ça.
C'est des choix que les gens font. Hein.
Alors, deux solutions. Soit je reste dans la banque, mais effectivement, j'évolue sur des métiers pas de management, mais de ce qu'on appelle des experts. Mais après, encore faut-il que ces métiers soient reconnus, parce que maintenant, on vous met expert de tout, mais on vous reconnaît pas ça sur la fiche de paye. Soit je sors de mon métier de production, où je traite des dossiers en masse, ou soit je change carrément de métier. Effectivement, un métier qui sera peut-être moins bien payé.
Et vous, y avez réfléchi?
Eh ben, soit je me mets à mon compte, mais après encore faut-il trouver une activité qui nous convienne, hein, ou soit j'évolue sur des métiers où mes compétences sont transposables. Ça peut être par exemple du social, ça peut être d'autres choses, parce que quand vous êtes banquier, vous accompagnez des clients, vous étudiez leurs projets.
Mais toutes les banques sont pas comme ça, en fait. C'est pas les banques.
Il dit que toutes les banques sont comme ça, même les mutualistes.
Non, pas du tout.
Et Chris, il le dit.
Il y a des banques qui fonctionnent pas comme ça. Le Crédit Mutuel, 7% d'augmentation. Non, mais c'est vrai.
C'est les pires.
Chez qui vous, Chris? 7% d'augmentation de leurs salariés, ils ont mis le dividende sociétal en route.
Chez qui bossez-vous?
Il y a des gens qui évoluent, pour garder les salariés, pas tous. Mais ça existe.
D'accord.
Vous me parlez du Crédit Mutuel, parce que j'attends un retour de leur part, et effectivement, ils m'ont fait une présentation de leur entreprise qui m'a énormément.
Ah, ben voilà.
Je raconte pas de bêtises.
Suivez l'exemple de Zora.
Voilà.
Faites un transfert.
On verra ce que ça donnera. Mais voilà. Et aujourd'hui, l'ascenseur social, je peux vous donner un exemple. J'ai postulé à une offre de responsable adjoint, en disant, allez, va quand même sur un poste de responsable adjoint, ça t'engage à rien, tu vas pas devenir manager et tout. Et ça permet de faire valoir tes compétences d'expert. À la Banque de France, à Caen, ils m'ont rejeté ma candidature dès le lendemain. Donc je me suis dit, là, c'est une intelligence artificielle qui l'a étudiée, c'est pas possible, parce que maintenant, c'est une nouvelle mode aussi. Et en fait, j'essaie d'en savoir plus, de contacter la DRH. Ah oui, mais non, sur ce type de poste, un profil comme le vôtre, faut quand même savoir que je me suis diplômé à 35 ans d'un brevet professionnel banque. À 37 ans, j'ai fait un BTS. À 39 ans, j'ai fait un bachelor, donc un niveau licence. Je suis courageux.
C'est bien, bravo.
Moi, je pense, Chris, vous avez encore de l'ambition. Vous avez de la frustration.
Vendez de la drogue ou blanchissez de l'argent. un truc rémunérateur du moment.
Bon conseil d'Anna Marshall.
Ça vaut pas le coup de se faire prendre quand même.
Merci, oui, mais Chris. Vous mettez un gros paquet de côté, quoi, mon cher. Pour les années à venir. Merci de cette expérience personnelle, professionnelle, mon cher Chris. Merci d'avoir été avec nous. Mais j'espère que quand même vous arriverez à vous épanouir, parce que vous avez 43 ans. C'est encore 20 bonnes années devant vous. Michael, fidèle des GG.
21.
Qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour, Michael.
Bonjour à toute l'équipe.
Michael, restaurateur, qui nous a souvent parlé aussi de sa réussite. Michael, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi le travail est en train de sortir un peu de nos vies, alors?
Non, on va droit dans le mur. De toute façon, en France, vous voyez bien tout à l'heure avec le débat de ce matin, on veut faire la grève, on veut la retraite, mais pas pendant les vacances. On veut faire, on veut de l'argent, mais on veut pas travailler. Non, mais sérieusement, on continue comme ça, on va droit dans le mur. Ça va finir comme les États-Unis. Il y aura la sécurité sociale, tout ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, faut taxer quelque part à un moment. Si personne travaille, il n'y aura plus rien à taxer. Ce sera tout le monde aura sa mutuelle privée et plus personne n'a envie de bosser. On explique aux gens que tout le monde est des ambitions politiques, hein. Que quand je dis tout le monde est égaux, c'est pas que tout le monde est égaux, c'est qu'on peut toucher de l'argent et ne rien faire. On propose des revenus universels. Je vais prendre l'exemple de vous deux qui êtes sur le plateau. Alain Marshall, Olivier Truchot. Vous avez une certaine notoriété, vous avez certainement gagné votre vie, mais vous attaquez une émission à 9h du matin, donc vous êtes là peut-être 2h avant. À 17h, vous êtes encore là à la télé. Je m'en suis rendu compte en allant au travail au restaurant. Le matin, je vous écoute au petit déjeuner. Je rentre à ma coupure, vous êtes encore à la télé. Je dis, non, mais ils dorment jamais les deux.
Moi, je suis bof beaucoup.
Mais je veux dire, c'est que, il faut apprendre aux gens la valeur du travail. Aujourd'hui, on leur apprend, reste chez toi, t'es assis, t'es payé, t'as rien à faire. Je le dis souvent, moi, dans la restauration. Quand je vois des gamins qui à 18, 19, 20 ans me réclament le chômage, et je vais le redire ce que j'ai déjà dit sur votre plateau, mais moi, les gosses, faut pas leur apprendre le chômage. Faut leur apprendre, tu veux de l'argent, tu travailles.
Oui.
tu veux te payer en
vous
scooter.
Vous avez ô combien raison. C'est quand même, on se pose une question qui est quand même une question de pays riches et socialisés, quoi.
Voilà.
Il y a d'autres pays où les gens tueraient pour avoir un travail. Il y a des gens qui actuellement traversent la Méditerranée et meurent pour aller chercher un travail. Et nous, on se demande si le travail est essentiel dans notre ville. C'est délirant, quoi. C'est délirant. Non, mais on donne tellement d'aide. Et ça doit quand même interpeller les politiques. Parce que c'est le résultat des politiques depuis 30 ans. Où on accompagne, on aide, etc. Et au final, on finit par dégoûter du travail, quoi. On se dit, bon, non, la vie est possible sans travailler.
Mais c'est normal, quoi. Les politiques ont en moyenne jamais travaillé.
Non, mais c'est éminemment scandaleux.
62 ans,
c'est un ancien ministre qui dit ça.
Je sais de quoi je parle. Ouais, j'en ai fréquenté.
Mais tu vois, si on veut donner de l'espoir à ce pays.
Les types qui font de la politique aujourd'hui, majoritairement, ils viennent d'une génération qui
n'ont jamais été bossés dans une entreprise.
Ils n'ont jamais bossé dans une entreprise. Donc, ils ont cumulé des dizaines d'années de mandat électif. Ils vont sortir d'ailleurs avec des retraites.
Mais c'est pire que ça. On a la sensation qu'aujourd'hui, la politique, c'est ce que tu fais quand tu ne peux rien faire à côté. C'est une voie de garage. C'est terrible.
On est dans une société, pour reprendre un peu, excusez-moi, vous êtes d'une génération au-dessus de moi. Mais on est passé d'une société où on avait des devoirs où on n'a que des droits et plus de devoirs en fait.
Bah on est peut-être passé, pour essayer de nuancer quand même, on est peut-être passé d'un excès à un autre. On est quand même, il y a les générations avant les nôtres se tuent un peu au travail, partaient à la retraite et on mourait d'ailleurs quelques années après parce que l'espérance de vie était moins élevée et puis on faisait moins attention à soi, on fumait, etc. Maintenant, on se posait moins de questions, c'est vrai. On bossait, on choisissait pas forcément son boulot, on passait toute sa vie à faire le même boulot, on se posait pas de questions. Ouais, donc c'était quand même assez excessif. Et peut-être qu'on est passé dans un excès inverse où on est dans une société du loisir. Ce qui compte, c'est son bien-être personnel. On est dans le coaching de soi-même en permanence. Et forcément, dès qu'il faut faire un effort, dès qu'il faut jouer collectif, dès qu'effectivement, il faut être un peu sur la frustration. Moi, je pense qu'on est une société qui ne sait plus être frustrée, en fait. On veut tout de suite. Et donc,
ça marche, Olivier.
C'est peut-être pour ça que, Mickaël, dans la restauration, vous trouvez plus de jeunes voulant bosser.
Ça marche tant que le pays est prospère au global.
J'avais 15-20 CV. J'ai eu 5 CV.
C'est aussi une question de la façon dont on a élevé nos enfants, mais je pense qu'il y a une responsabilité aussi parce que le travail, c'est aussi à la maison que tu l'incultes à tes enfants.
Mickaël, moi,
si tu vois pas tes parents travailler aussi, c'est difficile aussi de s'y mettre. Enfin, je veux dire, il y a aussi des générations de gens qui n'ont pas vu leurs parents travailler, qui étaient au chômage.
Moi, j'ai une anecdote sur ça d'une mère qui m'a engueulé. Son fils voulait arrêter de travailler chez moi. Je lui ai dit, très bien, donne-moi une démission. J'ai la mère qui m'a appelé le lendemain. Non, vous allez mettre mon fils au chômage. Vous qui touchez le chômage. Je me dis, quand c'est la mère, ça vient de la mère. Comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais non, il veut arrêter, il démissionne.
Il profite du système.
Pour qu'il puisse toucher le chômage. Et le gosse, je le revois un an après, je dis alors, tu recherches toujours du boulot? Ah non, quand j'ai vu par rapport à ce que je touchais actuellement, 19 ans, gosse. Quand je touche actuellement, c'est pas intéressant de retravailler. À 19 ans, c'est le genre de discours.
Non, mais après, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est mondial actuellement, c'est cette sortie du Covid qui fait qu'on voit des gens plus fatigués avec moins de volonté, ça oui. Mais après, cette espèce de penser de le travail est-il encore essentiel? Si on compare des pays à niveau économique égaux, on va pas retrouver la même chose en Angleterre, aux USA, en Italie, qu'en France, quoi.
C'est quand même aussi
très franco-français, ce truc-là.
États-Unis,
en post-Covid, mais tu as quand même une volonté entrepreneuriale qui n'existe pas ici.
Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous. Et je vous dis à bientôt, Mickaël. À bientôt dans les GG. Merci, Mickaël. Alors, le travail est-il encore essentiel dans votre vie? Oui ou non? Regardez.
Il y a de l'espoir.
C'est 50-50.
Il y a de l'espoir.
49-3. Je sais pas s'il y a de l'espoir. 49-3.
Majoritairement, c'est non, quand même.
50,7.
Mais le oui, c'est à 49-3, t'as vu? Donc.
Ah oui, c'est pas mal, Alors, pas fait exprès,